La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la basse marche que j'ai intitulée aujourd'hui « Moines, monastères et abbayes, jadis en basse marche ». Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages et articles suivants « Dictionnaire historique et géographique de la Haute-Vienne » d'André Leclerc, « Histoire de l'abbaye de Gramont en Limousin » d'André Lanteny, « Monastère de Gramont, guide d'histoire et de visite » de Gilles Bresson, « Site de l'abbaye de Bronzeau, l'ouvrage « La basse marche de tous les temps »« Fanchette » de Florence de Guy et « Histoire de Bellac » de l'abbé Granet.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
On a peine à imaginer aujourd'hui la foison des abbayes, des couvents, des monastères, des prieurés que comptait dans le passé notre région du nord de la Haute-Vienne. Certes, nous n'avons jamais accueilli d'ermites fondateurs, nous n'avons jamais possédé de grands monastères centralisateurs que l'on trouvait seulement sur nos marges, comme l'abbaye de Léther, celle de Bénévent, celle d'Aubignac à Saint-Sébastien, celle de Charroux, celle d'Aubepierre ou de la Colombe, ou encore celle de Gramont. Si on exclut les grands centres religieux comme Mortemart et ses trois établissements religieux, et les centres urbains du Dora, de Bellac et de Magnac-Laval, on compte une bonne quarantaine de celles, de petites abbayes ou de simples prieurés dispersés dans la campagne de la basse marche. En voici quelques exemples un peu en vrac. On trouve des prieurés dépendants de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges à Azalery, à Azrables, à Lussac-les-Églises ou à Roussac. Ou dépendant du prieuré d'Oreille à Baldan, ou de l'abbaye du Breuil à Vieillefonds de Berneuil, ou dépendant du prévôt de la Souterraine à Lussac-les-Églises, ou de l'abbé du Dora avec le prieuré de filles de Montaigu-le-Noir à Comprignac. La maison Dieu de Montmorillon, les Augustins de Montmorillon chapeautent, si on peut dire, le prieuré de Laplain à Tersanne, le prieuré d'Angelard à Comprignac, la commanderie de Montalembert à Cromat ou de Lerne à Saint-Léger-Magnazet, ou encore celle du Vieux-Bois de Droux, ou encore de Chasseneuil de Rancon. Le monastère Saint-Gérald de Limoges couvre le prieuré d'Homme de la Mongée à Comprignac, le prieuré de Lagarde à Saint-Gérald à Roussac. Cette liste est sans doute un peu fastidieuse. Signalons pourtant encore les prieurés de femmes dépendant de l'ordre de Fontevraud, de l'abbaye bénédictine de la Règle de Limoges, au puits Saint-Jean de Saint-Léger-Magnazet, à Notre-Dame de Droux à Armentcioux, à Nouic, au Chières de Saint-Léger-Magnazet. Signalons aussi le Marie-Moulet de Saint-Hilaire-la-Treille et Menussac à Jouac, qui dépendait de l'abbaye de Lartige, ou encore le prieuré de l'ordre de Saint-Benoît de Bezeau à Saint-Bonnet-de-Bellac, qui dépend de l'abbaye de Saint-Savin. On le voit par cette liste pourtant simplifiée, il y a là un extraordinaire éparpillement des fondations religieuses dépendant d'établissements, abbayes ou monastères situés dans les marges de la basse marche. Et je le rappelle, nous n'avons pas parlé des fondations de Mortemart ou des villes de Bellac, du Dora ou de Magnac-Laval. De la même façon, nous n'avons pas parlé des dépendances de l'abbaye de Charroux ou de celle de Gramont, ou des ordres militaires.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Et pourtant, les ordres militaires sont bien représentés dans notre zone. C'est ainsi que les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui appliquent la règle de Saint-Augustin ou de Saint-Benoît, devinrent très vite, comme les Templiers, ceux donc de l'ordre du Temple, des ordres militaires. C'est ainsi que les chevaliers du Temple contrôlaient les prieurés de Foulventour à Saint-Hilaire-la-Treille ou de Labussière-Rapy à Saint-Amand-Magnazet. Ceux de Saint-Jean de Jérusalem contrôlaient, eux, la sous-commanderie de Breuil-Offa et de Labussière-Opigny à Saint-Ouen-sur-Gartempe, de l'Ex-Fardelière à Lussac-les-Églises ou bien encore la commanderie de Champeau à Gajoubert. Voici d'ailleurs le descriptif qui est fait des possessions de Champeau en 1616. Il cite d'abord l'église, et au bout de cette église, il y a une cour carrée, tout en masure, proche de laquelle il y a aussi des masures de plusieurs autres bâtiments, maisons et étables, et un paissage ou enclos d'un jardin, entouré de basses murailles. On mentionne encore le pré de la commanderie, la vigne du commandeur, et une grande campagne de terres incultes où était anciennement le bois de haute futaie de la commanderie, de la contenance d'environ 6 ou 7 vingts arpents. Nous allons nous intéresser maintenant à un des ordres les plus célèbres de notre département, celui de Grandmont, et nous allons le faire à partir d'une de ses dépendances, l'abbaye de Bronzeaux, dans la commune de Saint-Léger-Magnazet. Dans l'ouvrage que nous avions consacré à la basse marche, voici presque 30 ans, nous avions signalé l'abbaye des Bronzeaux à Saint-Léger-Magnazet, et nous avions réussi avec beaucoup de difficultés à réaliser quelques photographies, avec beaucoup de difficultés car le bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Depuis 1998, ces bâtiments ont été acquis, partiellement rénovés et ouverts à la visite, qui est très intéressante et que nous conseillons à nos auditeurs. En effet, les Bronzeaux constituent le seul témoin en Limousin des monastères grandmontains du XIIe siècle de la fameuse abbaye de Grandmont. Voici ce que vous y découvrirez. Si de l'église il ne subsiste plus que le mur sud, on trouve encore la salle capitulaire de plus de 5 mètres sur 7. La salle capitulaire, c'est celle où l'on discute de toutes les affaires matérielles de l'abbaye, où l'on reçoit les hôtes de marque. Le cellier et surtout l'avant-cellier qui, dans l'architecture de Grandmont, est construit pour protéger du soleil et de la chaleur les réserves de fruits et d'autres nourritures. Le dortoir, où l'on accède par un escalier extérieur, celui des Bronzeaux qui possédait un pavage en terre cuite de grande dimension, presque 6 mètres sur 25. On trouve encore un grand réfectoire de plus de 76 mètres carrés avec une crédence pour le rangement des plats. La cuisine, dont le passe-plat a été bouché, il y a bien sûr la cour du cloître, une grande salle à l'étage, des bâtiments annexes, maisons et tuileries, la production de tuiles étant une activité essentielle de l'abbaye. Notons enfin que cette abbaye était entourée par une enceinte faite de pierres sèches. Cette abbaye des Bronzeaux fut fondée par le seigneur de Magnac, Guillaume Chauvet, son épouse et ses trois frères en 1172. Ils donnèrent aussi les bois, forêts, terres, prés, pasturales, moulins et leur appartenance, le tout en pur perpétuel et franche aumône. Par la suite, le monastère recevra de nombreuses autres donations. C'est aux Bronzeaux que les quatre moines revenant de Cologne, en 1181, portant les reliques de Sainte Ursule et de ses compagnes, firent étape avant leur arrivée à Grandmont. Et c'est de là qu'ils envoyèrent leur missive à Grandmont pour annoncer le succès de leur mission. La selle des Bronzeaux fut unie au chef d'ordre de Grandmont en 1317. À chaque recensement, il semble bien que le nombre de clercs de Bronzeaux qui se reconnaissent comme bons hommes de Grandmont n'ait jamais dépassé les 5 ou 6.
Et grandes histoires de la basse marche.
L'abbaye des Bronzeaux est donc une des 160 possessions de l'ordre de Grandmont qui fut créée par Saint-Étienne de Muret à Grandmont, près de Saint-Sylvestre, dans les monts d'Ambazac. Nous pourrions consacrer une émission entière à l'ordre de Grandmont. Voici simplement quelques informations sur les règles de cet ordre. Précisons d'abord que l'on y trouve deux groupes bien distincts, les clercs et les convers. Les clercs adhèrent à la règle de Saint-Étienne, ils font vœu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté. Si, au moment de leur mort, on trouve un pécule caché, on les enterre dans le fumier. Notons encore que la règle du silence y est particulièrement sévère, que l'alimentation est des plus frugales, jamais de viande, du poisson seulement, ce qui explique sans doute les très nombreux étangs que les moines de Grandmont feront construire. De la Toussaint à Noël, il est interdit de consommer des œufs ou du fromage. Et si le pain vient à manquer, ils jeûnent un jour, puis vont mendier de porte à porte. La prière et la méditation emploient le plus clair de leur temps. Ils se lèvent à minuit pour chanter matine, assistent à la messe, récitent l'office des morts et se rendent 3 fois par jour au cimetière. Notons encore qu'ils s'engagent à vivre dans la solitude d'un lieu retiré, à refuser toute fonction paroissiale ou évangélique, à ne pas tenir d'archives pour ne pas plaider en justice, à accueillir les pauvres avec bienfaisance. Ils portent un costume sévère, brun ou gris, avec scapulaire et capuche. Ils ont la barbe rasée et les cheveux taillés en couronne. Ils s'adonnent à l'étude de l'écriture et des lettres sacrées. Ils ne sont donc pas soumis au travail manuel, ils laissent ce soin aux convers. Ce sont donc les frères convers qui vont faire les travaux des champs ou de la Tuilerie. Ils sont recrutés souvent parmi les pauvres gens du voisinage. Ils entrent dans l'ordre de Grandmont parce qu'ils y trouvent la certitude de survie et aussi parce qu'il fait meilleur vivre sous la crosse de l'évêque, que sous la poigne du seigneur local. À l'inverse des clercs, ils ne prononcent pas de vœux sauf celui d'obéissance. Notons que l'ordre de Grandmont possédait un autre établissement dans notre zone, à Rousset, dans l'actuelle commune de Vaulry, le vicomte de Mortemart fit donation de ce lieu où les moines de Grandmont créèrent un étang, un moulin et une selle, une petite abbaye qui comptait 5 religieux à la fin du XIIIe siècle.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Le rôle historique de ces abbayes a été considérable. Leur influence religieuse est incontestable. Elles étaient des foyers de vie spirituelle, mais centres d'accueil pour les voyageurs, elles facilitèrent les échanges économiques. Enfin, signalons que leurs aumônes constituaient, sous l'Ancien Régime, une aide économique et sociale très appréciable. La vie des moines se partage entre le travail, l'étude des écritures et les prières. Pour les moines de l'ordre de Grandmont, la vie s'organise ainsi. 4 heures du matin, les prières des matines. 6 heures, celle des primes. 7 heures, la messe matutinale. 9 heures ou 10 heures, les prières du tierce. Vers 11h30, les prières du déjeuner. À 14h, la nonne. 16h30, les vêpres. Le souper est à 17h30, il est suivi de la prière des complis à 18h. En règle générale, les moines se couchent vers 20h et se relèvent vers minuit pour les vigiles, qui sont les prières des veilles de fête. Après la prime, vers 6h30, donc, les frères se réunissaient dans la salle capitulaire sous l'autorité du correcteur. En tout temps et chaque jour s'y rassembleront les frères qui pourront s'y rassembler sans difficulté. Mais les dimanches et jours de fête, tous s'y rassembleront, clercs et convers. La réunion se divise en 3 parties. Les prières, l'administration des affaires de la communauté, les décisions disciplinaires. Les frères, assis à leur place, immédiatement ceux qui se sentiront coupables demanderont pardon, prosternés devant le pasteur ou le correcteur. Ceux dont la faute est telle qu'elle exige la discipline corporelle, c'est-à-dire le bas du dos fouetté par les verges, se prépareront à la recevoir sans murmurer ni ergoter, et ils avoueront humblement leur faute. celui qui refuserait d'accepter sa correction mangera par terre pendant 3 jours de suite en se contentant de gros pains et d'un seul plat. Et s'il persiste, il sera envoyé au prieur, au siège, à Grandmont, pour être puni à sa discrétion. Notons que dans certains monastères, on trouve des enfants parmi les moines. Voici ce qu'en écrit Brigitte Coppin, un écrivain que nous avions reçu ici à RMJ, et cela dans son ouvrage « À la découverte du Moyen-Âge ». Un enfant entre au monastère. Un petit cortège vient de frapper à la porte de l'abbaye. Guillaume, assis en croupe derrière son père, descend de cheval et s'avance sous le passage voûté de la porterie. Son père a décidé de le confier à l'église et a donné de l'argent ou des terres en échange de son entretien. C'est ainsi que les abbayes s'enrichissent. Troisième fils de chevalier, Guillaume a tout juste 10 ans et personne ne lui a demandé son avis. Il fait partie de ces enfants oblats offerts à un monastère qui se charge de leur éducation et fait d'eux des moines, ceux qui prient toute leur vie pour le salut du monde. Un des centres religieux importants de notre zone est sans conteste celui de Mortemart. En effet, en 1330, le cardinal Pierre Gauvin, natif de cette commune, fonda 3 établissements religieux grâce à 3 chartes octroyées par le roi de France. Un hôtel-dieu, servi par les religieux de l'ordre des Carmes, frères de Notre-Dame du Mont-Carmel. Un collège dirigé par les religieux de l'ordre des Augustiniens et un monastère occupé par les Chartreux. Le couvent des Carmes fut au centre de la vie sociale et économique de la cité. En effet, toutes les charrettes qui viennent de Bellac traversent le couvent et arrivent donc à Mortemart par l'entrée principale. Notons que l'hôpital était installé près du portail d'entrée. Le quadrilatère du couvent des Carmes était fermé par une chapelle, disparue au moment du percement de la route de Blon vers 1850. Elle a d'ailleurs servi à combler les douves devant le château pour permettre le passage de cette route. Signalons qu'en 1340, les Carmes remplaceront les Chartreux après leur départ. Aussi, le nombre de moines du couvent des Carmes passera de 12 au départ à 25. Les Chartreux, pour leur part, ne possédaient pas de chapelle propre, pas de cloître non plus, mais simplement un bâtiment en prolongement est du couvent des Carmes. Aussi, la maison des Chartreux végéta et ils quittèrent Mortemart en 1412. Le couvent des Augustins de Mortemart, c'était un ordre mendiant qui, à Mortemart, avait pour mission d'enseigner la grammaire et la rhétorique aux enfants et aux adolescents de 8 à 20 ans. C'est l'église de ce couvent qui est devenue l'église paroissiale avec de remarquables stalles du XVe siècle en bois sculpté. Le couvent lui-même, qui lui est contigu, a été repris au XVIIIe siècle, sans doute par l'architecte Brousseau. Les établissements religieux de Bellac sont un peu plus récents. Alors certes, les pères de la doctrine chrétienne installent leur collège en 1648 avec 3 prêtres, 2 régents, 1 frère. Ils enseignent la grammaire latine et grecque de la 5e à la 3e. En 1683, c'est l'installation des sœurs de Rouen qui seront remplacées en 1746 par les sœurs de la Croix pour enseigner les vertus aux filles pauvres de la ville de Bellac. En 1733, arrivent les religieuses de l'Union chrétienne. 11 religieuses, plus 3 converses, sont chargées des pauvres de l'Hôtel-Dieu. En 1819, ce sont les filles de la Sagesse qui s'installent pour assurer les services de l'hospice. Et en 1844, c'est l'installation des frères de la doctrine chrétienne qui viennent pour assurer le service de l'école. Le Dorat est aussi devenu, au fil du temps, un centre religieux particulièrement important. Je résume à très grands traits. Un oratoire aurait été fondé en 507 et aurait reçu par la suite des moines de l'ordre de Saint-Benoît. Il fut détruit par les Normands en 866, puis reconstruit en 944. Nous avons déjà, dans cette émission des petites et grandes histoires de la basse marche, parlé de l'abbaye du Dorat, qui eut en son sein Saint Israël et Saint Théobald. Signalons quelques autres installations. Les religieuses bénédictines de la Trinité en 1624. Elles étaient 22 religieuses à la Révolution. Ce couvent avait été fondé en particulier par Catherine Pidoux, la tante de Jean de La Fontaine. Les Récollets, qui en 1610 s'installèrent à l'extérieur du Dorat, à l'ermitage de Notre-Dame de la Recouvrance. La congrégation des sœurs de Marie-Joseph en 1641, dans les bâtiments de l'ancien hôpital des chanoines, leur mission est d'intervenir auprès des prisonniers. L'installation en 1866 des franciscaines de Notre-Dame du Temple chargées, elles, des maisons de retraite du clergé. Et 10 ans avant, en 1856, c'était l'installation des carmélites, qui était alors au nombre de 9. Nous allons précisément, pour terminer, nous intéresser à ces carmélites du Dorat, et cela à partir d'un extrait du roman de Florence de Guy, Fanchette. Fanchette, une jeune fille de Bellac, est très malade. Sa mère la conduit à la ville voisine du Dorat, où la tante de la fillette est religieuse. Cette dernière n'est pas cloîtrée, elle est une religieuse chargée des relations avec l'extérieur, c'est une tourière.
Grandes histoires de la basse.
Venez à la chapelle. C'est l'heure où nous devons nous y rendre. La petite cour était propre, nette, avec des recoins abritant des rosiers fleuris et des statues de Sainte Thérèse d'Avila. La chapelle, toute claire, toute moderne, n'a de curieux et d'impressionnant que la vaste grille qui clôture la gauche du chœur. Fanchette, effrayée, contemplait les deux épaisseurs de barreaux noirs. L'une grillagée, l'autre à grosses barres verticales. En avant, des piquants robustes, noirs aussi, et derrière cet appareil un peu sinistre, un voile opaque, immobile, et également noir. L'enfant se pencha et vit, à gauche de la grande grille, une grille plus petite, mais aussi redoutable, et qui ménageait en son milieu une ouverture close pour l'instant. « Maman ?» Vois cette porte. Tais-toi, c'est pour la communion des carmélites. Elle communiait par ce guichet. La fillette s'imagina un à un dans le carré noir des visages voilés de noir montrant des bouches sans couleur et des mentons jaunis ou pâles. Deux tourières priaient tout près de la petite fille. C'est alors que de l'autre côté du voile noir, un chant préluda sans qu'aucun bruit eût annoncé la présence des carmélites. Elles étaient là pourtant, en leurs stalles unies sous la royale parure de leur grand manteau blanc. Un chant s'éleva donc, si l'on peut appeler chant cette lente mélopée sur 4 notes. Les voix, volontairement éteintes, déroulaient régulièrement cette modulation monotone. Elle cessait parfois pendant quelques secondes, puis reprenait, semblable, ni plus, ni moins forte, déroulant toujours les mêmes notes sur le même ton un peu étouffé. Cela semblait ne jamais devoir finir, rendu immortel de par sa répétition et son uniformité même. Les tourières mimaient d'amples signes de croix, indifférentes à la psalmodie toujours entendue. Le voile noir, la grille, le chant lamentable ébranlèrent le corps de Fanchette et un sanglot lui échappa. « Maman, j'ai peur. Tais-toi, tais-toi. Ce sont les carmélites qui chantent. » Et la petite se tut. Mais en elle, tout frissonnait d'angoisse. « Fanchette, viens voir le couvent. » La tante prit la petite main glacée et la caressant pour la réchauffer guida la fillette. « Je verrai les carmélites ? Non. Non, personne ne peut les voir. Elles sont derrière cette porte sans serrure. C'est par là que passent les religieuses après leur prise d'habit. La porte se referme et c'est fini. La salle de récréation des tourières s'ornait de petites statues et de bouquets naïfs. Au-dessus, ce sont nos cellules. Elles repassèrent devant la porte sans serrure et devant le tour de bois jaune par où arrivent les ordres écrits. Allons voir les parloirs. Chacun d'eux offrait sa devise pieuse. Partout, des grilles épaisses et noires, hérissées ou non de piques et renforcées d'un voile noir ou d'un panneau de bois. Le réfectoire pour les prêtres de passage avait aussi un petit tour. « Dieu seul suffit », lui Fanchette. Un autre parloir à solives apparentes avait une large grille et deux tours. Voici la petite salle où l'aumônier confesse les carmélites. Elles sont derrière la grille et le voile. Mais que peuvent-elles avoir à dire? Qui sait? Elles peuvent s'accuser d'impatience et peut-être d'avoir pris plaisir à respirer une fleur. Fanchette leva les yeux. C'était donc un péché de boire l'ambre d'une rose, de lisser avec sa main des poils de bête chaude et doux, d'admirer, d'aimer. Elle frissonna encore à la vue des barreaux noirs. L'esprit songeait à des murs tout blancs percés de portes noires et à cette alliance funèbre du blanc et du noir qui est celle du drap des morts. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée « Moines, monastères et abbayes, jadis, en Basse Marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de l'abbé Leclerc, de l'abbé Granet, d'André Lantoni, de Gilles Bresson, de Florence de Guy et de Brigitte Copin. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au compositeur Frédéric Laurent pour 4 de ses compositions, mais encore au chant des moines de Fontgombault, de Tamier ou aux religieuses de l'abbaye d'Échourgnac. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.